question d'Eric.
Moi, je voulais connaître l'avis de Torah par rapport au signe révélateur actuel des temps messianiques.
Ça veut dire quoi, l'avis de la Torah?
L'avis de la Torah, c'est-à-dire savoir si c'est vraiment des signes révélateurs de la fin des temps, c'est juste des bobards, quoi.
Réponse, c'est peut-être des bobards. Ça veut dire. On n'a pas le prophète aujourd'hui. Et même des très grands rabbins qui ont Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qui ont l'Esprit Saint, la longue clairvoyance, et j'en ai connu. Le Rav Benson Abba Shaoul, il avait très clairement le don de clairvoyance. Et lui a dit, Pessach 90, Mashiach vient. Et tu vois qu'on est 18 ans plus tard, et l'Internet s'est toujours passé. Donc on peut se tromper. On n'a pas un prophète qui dit une chose, et il se trompe, c'est un faux prophète, on le tue, d'après la Torah. D'accord ? On n'a pas de prophète aujourd'hui. Donc, on peut être certain de rien. Et ça, je te le souligne en 40 000 fois, parce que maintenant, je parlais des signes, et les gens, après que je fais un cours pareil, dans le monde entier, Rachel a annoncé, ma chère arrive dans 3 semaines. Voilà. Non. Non, voilà. Alors, il y a des signes qui sont très parleurs. Mais souvent, il y a des signes très parleurs, rien ne se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans aucun doute, là par contre, sans aucun doute, il est clair qu'il y a une opportunité qui se trouve devant nous la semaine à venir. Pourquoi? Tout simplement, parce que avant peut-être de voir les textes, parlons un peu géopolitique, d'accord? Avant de voir les textes. Nous ne soyons pas trop idiots, et commençons à faire un raisonnement. Un raisonnement, ça fonctionne par des cases. Si A est égal à B, tu mets une deuxième case et B est égal à C, on déduit que A est égal à C. D'accord? C'est une déduction logique, rationnelle. Il y a un fou qui s'appelle Mahmoud Ahmadinejad, qui a dit que la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne est la disparition de l'État d'Israël. Bon, si ce n'est que ça, ça peut encore passer, c'est pas le premier, on a eu beaucoup durant l'histoire des comme ça. Mais lui a peut-être déjà au moins une bombe atomique, ou s'il n'a pas, c'est incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est une question de semaine, mois. On m'a dit que le Pentagone a dit qu'Israël devrait attaquer avant la fin de l'année 2008. C'est-à-dire qu'Israël comprend qu'il n'y a pas encore beaucoup de temps. Alors, deux choses l'une. Ou Israël attaque, ou Israël n'attaque pas. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas état-major, il ne m'envoie pas des faire-part avant ce qu'ils vont faire. Mais dans tous les cas, que ce soit comme ci ou comme ça, il y a une guerre. Si Israël n'attaque pas, le jour où il a la bombe atomique, eh ben il envoie, il ne va pas hésiter. Vous me direz, non, mais nous aussi on a des bombes atomiques. Donc s'il envoie, on lui envoie. Mais oui, il n'a rien à faire. C'est un chiite. Un fou de Dieu, d'accord. Tous les suicidaires, les shahides, c'est chiite. C'est des gens qui, pour eux, c'est l'honneur le plus grand, pouvoir mourir pour Dieu, pour Allah. Toi, tu n'en as pas un qui fera ça, t'auras un million d'Iraniens qui meurent. À l'époque, ils allaient, les petits-enfants, sauter sur les champs de mines irakiens. D'accord? Maintenant, on va faire mieux avec tout le peuple, les femmes, les enfants, tout Téhéran. Allez, Téhéran saute en bombe atomique israélienne. Peu importe, sauf, en fin de compte, c'est pour dévoiler Allah. Et lui, il dit que très bientôt doit se dévoiler le 12e imam, qu'on appelle le Mahdi, c'est le Mashiach d'après la version islamique, le Mahdi, qui doit se dévoiler dans des guerres, le sang et la mort. Et les trucs apocalyptiques classiques. Donc, si je suis logique, A est égal à B, bientôt il y a une bombe atomique qui se prépare. B est égal à C, c'est une bombe atomique de deux choses l'une. Ou bien l'Iran attaque, et c'est la fin des haricots, ou Israël attaque avant. Attends, si Israël attaque, qu'est-ce qui se passe? Le ministre des Affaires étrangères iranien a dit, c'est-à-dire environ 2 mois, on a le doigt sur la gâchette. Ça va, ils s'attendent, ça fait 3 ans que tout le monde dit qu'Israël va attaquer l'Iran. Donc ils ne sont pas pépères en train de... D'accord? Ils se préparent. Ils ont dit, on a le doigt sur la gâchette. Dès qu'un missile nous touche, on envoie 11 000 missiles. Israël, les bases de l'OTAN, la Turquie, tout ce qui sont à 2000 km environ. Ce qu'on croit qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont plus avec les Russes. Les Russes, ils ont donné, je ne sais pas. Vous me direz, bon, alors à Paris, on est pépère. Mais non, tout le monde sait que dans les cités parisiennes, il y a des groupuscules, ils ont des mines, des bassocas, des machins. Et comme ça, un petit comme ça, des chefs islamiques, pas seulement la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, qui sont infestés de ce petit groupuscule, se retrouvent à feu, à sang. Le RG, français, a dit, on ne maîtrise plus. On dit à quelqu'un, quelques chefs communautaires en France, on sait qu'il y a, faites attention, on ne maîtrise plus. Et ici en Israël, le terrorisme, alors plus ou moins le jugule, on est habitué, ça fait 50 ans qu'on bouffe ça tous les jours. Mais en France, quelqu'un qui veut maintenant aller faire sauter de la France, has et shalom, c'est compliqué. Tous les bus sont ouverts, tu prends quelques camions d'essence, tu les verses dans la Seine, t'envoies un briquet, ah, fini. C'est pas compliqué, tu mets une petite bombe sous un des pieds de la tour Eiffel. C'est sympa, c'est Twin Towers en version française. Je vais pas donner d'idée maintenant à nos... D'accord, mais c'est pas trop compliqué, c'est pas trop compliqué. Donc les gens qui réfléchissent un peu, ils comprennent qu'on est au bord d'un conflit. Au mois de juin, les journaux ont dévoilé que la Grèce a laissé son espace aérien libre pour que Tsar, l'armée de l'air israélienne, fasse un exercice aérien. 100 avions israéliens ont exercé sur une île déserte grecque pour s'entraîner à attaquer à distance, à 2000 km, la distance qu'on a pour l'Iran. Les journalistes disent, il se peut que c'est un entraînement préparatoire pour une attaque en Iran. Israël ne démentit pas. Le baril de pétrole a monté, rien que ça, de cette nouvelle, le baril a monté de 10 dollars. 10 dollars le baril. Maintenant, imagine qu'il y a vraiment l'attaque. Le baril, les spécialistes disent, le baril, ou il double, ou il triple. Attends, rien que doubler. Le baril de pétrole, il double de prix. Qu'est-ce qu'elle fait la planète? Boum. Boum. Terminé. Rien que ça suffit pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Donc, je ne suis pas prophète, je ne suis pas augure, mauvais augure, je ne suis pas apocalyptique et prédicateur. Je fais un examen logique et géopolitique, bébête. Donc, sans parler des textes, géopolitiquement, ça semble imminent, d'autant plus. Bush a dit, je ne finirai pas mon mandat sans m'occuper de la question iranienne. Donc, Bush finit quand son mandat? Les élections sont au mois de novembre. Parce que maintenant, Israël, s'il veut attaquer l'Iran, a besoin de l'appui des Américains. Après novembre, on ne sait pas s'ils auront l'appui, qui va passer, comment ça va se passer, personne ne sait. Donc moi, si j'étais, mais je ne suis pas, je répète, je suis qu'en spéculation, si j'étais Barak, j'attaquerais maintenant, pas pendant l'été, parce que c'est la période touristique, mais dès qu'on a fini, septembre, voilà, octobre, enfin, voilà. Par exemple. Bon, ça c'est la spéculation géopolitique. Je rappelle, ce n'est qu'une spéculation. Peut-être dans 6 mois, on rigolera bien quand on entendra ce qu'on aura. Parce que vraisemblablement, en janvier, j'aurai une spéculation pour le mois de mars prochain. Et à moi, vous avez déjà dit comme ça, déjà au mois de septembre passé. Alors, ouais, bon, ok. Encore une fois, on est en pleine spéculation. Donc, comme j'ai commencé à dire, c'est peut-être des bobards. Mais peut-être pas. Alors, que disent les textes? Daniel, chapitre 2. Daniel, c'est un livre qui a été écrit il y a 2500 ans par le prophète Daniel, qui raconte, Daniel était à la cour juive ici, dans le royaume de Juda, et a été déporté par le plus grand empereur de l'histoire jusqu'alors, c'était Nabucodonosor. Nabucodonosor, donc le chef de l'Irak actuel, de la Babylonie, conquis Israël, détruit le temple de Jérusalem, déporte tous les juifs en Babylonie. Pour le premier exil de 70 ans. C'était en moins 586. Et Nabucodonosor était un tyran. Saddam Hussein se prenait pour Nabucodonosor moderne. Il appelait les scudes Nabucodonosor II, il a fait une médaille d'un côté lui, d'un côté l'autre, il a rénové les fouilles de Babylonie pour redonner l'éclat à Babylone. C'est quoi Nabucodonosor? Nabucodonosor, c'était un roi, un tyran affreux, d'une cruauté terrible. C'est marqué dans le Talmud, on parle de lui, on dit que lorsqu'il est mort, il y a eu une manif en enfer. Tous les morts se sont plaints, ont eu peur. Quoi? Lui, il vient maintenant en enfer, il va faire l'enfer en enfer, ça va être terrible. Ils ont eu peur, d'accord? Il vient, et chez nous, maintenant, ici, dans le monde des morts, ça va être la fin des haricots. À quel point c'était un roi terrible. Saddam Hussein, avec toute sa cruauté connue, d'accord, ou méconnue, c'était un millième de Nabucodonosor. Bon, Nabucodonosor voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations. Et parmi ces sages, il a amené aussi des sages juifs, entre autres Daniel et ses trois amis, Michel, Hanania et Azaria. Et dans Daniel 2, je vous raconte maintenant ce que raconte la Bible, il est marqué que un beau matin, Nabucodonosor se réveille et il réunit toute sa cour, tous ses sages, tous ses sorciers, et leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve qui me préoccupe beaucoup, j'aimerais que vous m'interprétiez le sens de ce rêve. Bon, les sages ont dit, pas de problème, donnez-nous, racontez-nous le rêve, on va l'interpréter. Nabucodonosor dit, trop facile. Si je raconte le rêve, vous allez l'interpréter, qui me garantit que l'interprétation est la bonne? Vous êtes des véritables sorciers, vous devez être capable de me dévoiler ce que je rêvais. Et là, quand on serait capable de montrer que vous pouvez dévoiler les choses qui sont inconnues, mon rêve, je vous croirais pour l'interprétation. Donc je vous écoute. Les magiciens disent, enfin, mais sa majesté, c'est pas possible. Aucun roi n'a jamais demandé à ses interprètes, à ses magiciens, de dévoiler le rêve. Donnez-nous le rêve, et nous on va l'interpréter comme il faut. Écoutez, je vous paye tous les jours, là vous êtes une centaine de magiciens, matin, midi et soir, plus encore les extras, les vacances, l'hôtel, enfin vous êtes ici à la cour, ça me coûte de l'argent. À quoi vous servez? Si vous êtes capable de mener le rêve, ça va, sinon vous ne me servez à rien. Alors j'attends encore un peu, mais pas beaucoup. Et les magiciens essaient de gagner du temps. Samuel Nabucodonosor se met en colère terrible, il dit, ok, je vois que vous ne servez à rien, je fais un édit, tous les sages de Babylone, à la fournaise. Y compris Daniel, Michel, Hanania et Azaria, qui étaient absents, ils n'étaient pas présents à cette réunion. Arioch, le bourreau, va voir Daniel, lui dit, désolé Daniel, à la fournaise, Daniel n'est pas au courant, quoi, qu'est-ce qui se passe? On le met au courant, il dit, écoute, va voir, il est au bourreau Arioch, va voir. Le roi Nabucodonosor dit lui que j'ai une audience urgente. Le roi accepte. Daniel vient, lui dit sa majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous dévoile le rêve et son interprétation. Ok. Nabucodonosor dit, écoute, je sais que tu es un homme sérieux, je laisse 24 heures, mais pas une minute de plus. Une minute de plus, ta mort sera pire que celle des autres. Bon, Daniel rentre à la maison, amène ses quatre copains, ses trois copains, il se met à prier. Et Daniel s'endort. Et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabucodonosor plus de l'interprétation. Et le lendemain matin, il lui dit, au roi, toi tu étais sur ton lit, tu dormais. Tout coup devant toi, tu as vu une statue géante. La tête était d'or. La poitrine d'argent, le ventre d'airain, les pieds de fer. Et le bout des pieds, c'était moitié fer, moitié argile. Et une pierre venue sans intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds. Et toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a grandi, devenue une montagne qui a rempli le monde entier. Nabucodonosor dit, extraordinaire, c'est exactement ça. Maintenant, je t'écoute pour l'interprétation. Daniel lui dit, Sa Majesté, le grand Dieu du monde, t'a dévoilé l'histoire. Dieu était le maître du monde, son royaume, il exerçait sa puissance depuis son trône, c'était Jérusalem, le temple. Tu as détruit ce temple. Tu as hérité de la royauté de Dieu. Tu es devenu le roi du monde. Tu es le plus grand conquérant de l'histoire jusqu'à maintenant. Mais sache qu'un jour, ton empire va être aussi conquis par un autre empire. Et Dieu t'a montré toute l'histoire. La statue, elle, symbolise l'histoire. Toi, tu es la tête d'or. T'es l'empire babylonien. Après quoi viendra un autre empire qui va détruire l'empire babylonien. Qui est l'empire qui va détruire l'empire babylonien? Les Perses. Les Perses. Darius. Le petit-fils de Nabucodonosor, il s'appelait Evil-Merodach, si je me souviens bien, il sera tué par Darius le Perse, qui sera comparé à l'argent, la poitrine. L'Empire Perse sera aussi détruit par Alexandre le Grand, en moins 325, je crois, aura lieu la conquête, moins 324, Alexandre le Grand va conquérir l'Empire Perse jusqu'en Inde. Et l'Empire grec sera comparé au ventre d'airain. L'Empire grec sera détruit par l'Empire romain, comparé au fer. Et Daniel explique comme le fer qui a la puissance, c'est la puissance stratégique. Le fer, c'est la puissance, c'est le poignard, c'est l'épée, c'est la bracha de Esav, tu vivras par ton épée. Le monde occidental, sa puissance, c'est la stratégie, d'accord? C'est le plus grand conquérant du monde, ceux qui ont conquis l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, d'accord? Une partie ils ont tué, une partie ils ont mis en esclavage, enfin, des grands guerriers. Cet empire occidental, Rome, par extension tout le monde occidental jusqu'à aujourd'hui, pour finir, ce ne sera pas tout seul, il y aura deux, comme les deux pieds. Il y aura l'empire occidental, il y aura l'empire oriental, le monde arabe, comparé à l'argile. Et à la fin, Il n'y aura plus deux pieds, il y aura les petits doigts. Il n'y aura plus une grande puissance, mais quelques petites puissances. Moi, je fais le calcul. C'est pas marqué comme ça. Les commentateurs expliquent, mais ils n'ont pas dit cette chose-là que je vous dis maintenant. J'ai remarqué qu'il y a effectivement, si on fait le calcul, t'as dans le monde, au côté occidental, tu as 5 puissances. Le monde oriental, tu as aussi 5 puissances. Occidental, qui en a ? La Suisse, pas tellement, hein, ni la Suède, qui en aura ? États-Unis, France, Angleterre, Russie, Allemagne. Voilà, qui t'as encore ? L'Italie, l'Espagne, bon, pas tellement, hein, c'est les 5, t'as pas plus, 5. Dans le monde islamique, qui tu as ? L'Iran, l'Irak, avant Saddam Hussein, d'accord, à l'époque de Saddam Hussein. Syrie, ils font beaucoup, Égypte, Arabie Saoudite. Et dans le dernier, moi j'ai mis un peu tout mêlé. Alors tu as la Syrie, le Liban, je mets en fait le monde du terrorisme. C'est Hezbollah, Hamas, Al-Qaïda, tout le monde de l'ombre, d'accord. Alors l'Asie, on parle maintenant de l'islam, c'est très clair, Occident-Islam. L'argile, donc c'est les commentateurs disent, on parle du monde de l'islam. Ishmael. Pardon ? Bon, mais c'est pas une puissance qui s'oppose. Chine, non, mais ça n'a pas à voir avec. C'est pas islamique, la Chine, pour le moment. D'accord ? Hein ? Non, mais je te parle maintenant dans les commentaires de Daniel, il te dit, il y a le fer d'un côté, c'est le monde occidental, d'accord ? Et l'argile, c'est le monde de Ishmael. C'est Esav Ishmael, ils disent très clairement. D'accord ? Bon, peu importe, ça c'est une spéculation, ça peut être plus ou moins, peu importe. En tout cas, à la fin, il n'y aura pas deux empires, il y aura deux pôles avec différents petits pays. Et la petite pierre, c'est Amisraël, c'est la fin. Ce n'est pas qu'elle va détruire, elle vient sans intervention d'une main humaine. C'est la connaissance, c'est Dieu qui agit, et toute la puissance physique va être détruite, et c'est la puissance de la spiritualité qui va conquérir le monde entier, qui va être une montagne qui va remplir le monde entier. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est comparé à une pierre ? La pierre, c'est le symbole de l'éternité, ce qui ne change pas. Dans le règne végétal, animal, humain, tu as toujours une montée, une apogée, un déclin, ça disparaît. La pierre reste la même. Dans un siècle, dans deux siècles, dans 1000 ans, une pierre reste une pierre. Am Israël est un peuple qui ne change pas. On parle la même langue depuis des millénaires. On a la même Torah, on a la même Tfilin, même Tzitzit. Même peut-être même Daf le Shabbat. On est le même peuple depuis des millénaires. On ne change pas. De façon spectaculaire, dans nos conférences, je cite des auteurs non-juifs, à quel point ils sont stupéfaits. Mark Twain, Tolstoy. Même Hitler dit, comment se fait-il que ce peuple existe depuis 4000 ans ? Entre parenthèses, quel est le secret pour lequel... Quel est le secret qu'emploie le peuple juif pour rester éternel. Pour être éternel, il faut se brancher à l'éternité. Le plus grand branchement, c'est l'étude de la Torah. Dans Even, sa contraction, comme ça dit Rashi sur le verset qui parle d'Israël, c'est marqué Roé, Even Israël, le berger de la pierre d'Israël. Sa contraction de deux mots, Av, le père, Ben, le fils. Que le père enseigne à son fils la Torah. La Gemara dit, quand ton fils a 3 ans, tu l'enseignes Shema Israël, Torah, c'est pas le mot Shema Rachak, la Tiakov, si t'as pas fait ça, c'est comme si tu l'as enterré. Quoi, j'ai enterré? Il est vivant? Ouais, mais tu l'as enterré qui n'a plus la vie éternelle. Un juif sans la Torah, il quitte cette destinée éternelle. Qu'est-ce qu'il va donner? Pourquoi son fils ne se marierait pas avec une Christine ou avec autre chose? Si je n'ai pas une connaissance de Torah, pourquoi je continuerais à transmettre cette Torah? Donc la clé d'éternité du peuple d'Israël, c'est l'étude de Torah. Ça vous concerne, messieurs. Parce que vous, demain, vous êtes des papas, très bientôt. Et ton fils demande papa, c'est quoi Bava Batra? Je ne sais pas. C'est quoi la Mishnah ? Je sais pas. Comment on lit Rashi ? Je sais pas. Alors qu'est-ce que tu sais ? Tu sais rien. Ah, pourquoi je suis juif ? Je sais pas non plus. Ok, bah Christine est bien plus sympa. Elle est bonne, les yeux bleus, elle fait hello, pourquoi pas ? Hein ? Voilà, et c'est tout. Il faut donner un contenu à ses enfants. Et même si ton fils il est gentil, il sera bien. Alors le petit-fils, l'arrière-petit-fils, il n'y a pas de contenu, ça ne tient pas à la route, c'est clair. Aujourd'hui, on a les chiffres, d'accord ? On a les chiffres. Je ferme la parenthèse. Donc on parle Even, c'est la puissance de la spiritualité. Maintenant, tout ça pour vous dire quoi ? Il y a ici Daniel. Pas de Daniel. Bon, je vous fais oralement. Vous regardez dans le texte. Je crois que verset 45, quelque chose, 44 ou 45 du chapitre 2. C'est marqué que la petite pierre a touché le bout des pieds et ont été détruits le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Or, regardez, il y a ici un problème. Vont être détruits. Pas besoin. Bon, tu me l'as sorti. Ça. Dans les jours de ces royaumes, chapitre 44. Dans les jours de ce royaume, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne passera plus à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes et subsistera éternellement. Tout comme tu as vu qu'une pierre s'est détachée, regardez bien, de la montagne, sans l'intervention d'une main humaine, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le Mabim pose la question, Mabim il y a 2 siècles environ, pose la question, il y a quelque chose qui cloche ici. Comment on est comme une montagne, qu'une pierre s'est détachée de la montagne sans l'intervention d'une main humaine et qu'elle a broyé le fer. Le fer, c'est où? C'est les jambes. Après, les reins, c'est le ventre. L'argile redescend en bas. L'argile, c'est dans les pieds. L'argent, la poitrine, l'or. C'est pas dans l'ordre. Daniel, il a bu un coup, là. Pas normal. T'aurais dû dire, ou bien de bas en haut, le bas en haut. Alors, argile, fer, airain, argent, or, ou de haut en bas, or, argent, airain, fer, argile. Or, tu fais fer, airain, donc jambes, ventre, puis tu descends les pieds, et tu remontes, poitrine, tête. Bonne question. Explique le Malbim, il y a 2 siècles, c'est pour nous dire comment ça va se passer. Et là, on arrive à l'actualité. L'histoire est l'actualité, on est en plein dedans, à mon humble avis. Encore une fois, on est en spéculation, et qui sait, quoi c'est, on ne sait pas. Il dit, ce sera dans les guerres de Gog et Magog, les guerres de la fin de temps, dans lesquelles, pendant lesquelles et après lesquelles, Mashiach doit se dévoiler. Où vont s'unir les deux premiers, le fer et les reins. Le fer, c'est Rome. Les reins, c'est grec. La culture gréco-latine, c'est quoi? L'Occident. Le français aujourd'hui, c'est quoi? Tout le français vient du gréco-latin. Ou du grec ou du latin. Tout le monde occidental. Vont s'unir et vont attaquer l'argile. C'est quoi l'argile? Le monde arabe, Ishmaël. Mais pas n'importe, ils vont pas attaquer le Maroc, ils vont pas attaquer le Pakistan, ils vont attaquer l'argile qui est constituée de l'argent et l'or. L'argent, c'est quoi? La Perse, c'est où la Perse aujourd'hui? L'Iran, et l'or, c'est quoi? L'Irak, Babylone, c'est l'Irak. Donc, nous dit un commentateur, il y a, sur la base de Daniel, il y a 2500 ans, nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une union des peuples occidentaux pour attaquer l'Irak. Première guerre du Golfe en 1990, 21 forces, 91 c'était la guerre proprement dit, 21 forces alliées attaquent l'Irak. Deuxième guerre du Golfe, Bush avec quelques autres, quelques-uns comme ça, fini, ils l'ont eu. Ça, c'est déjà de l'histoire. Reste la suite. Reste la suite. L'Iran, c'est marqué. Ok, messieurs. Maintenant, ça nous dit pas quand ça va être. Alors, de nouveau, je répète et je répète. Je me trompe toujours. J'ai raconté ça à un copain derrière moi. Il m'a dit comme d'hab. D'accord? Bon, non, comme d'hab. Et je répète comme d'hab. Mais peut-être que pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit se préparer. Pourquoi on doit se préparer? Parce qu'on a une... On n'a pas eu de mal à essayer de nous faire oralement de nouveau. Certaines Megillah, page 17b. Pose la question. Tu l'as ici, Megillah? Oh, je le fais oralement. Page 17b. Nous dit, là-bas, la Gemara va analyser la place des bénédictions dans le Shmona Esrei. La Amida, la fila que nous faisons tous les jours, 3 fois par jour, elle est constituée de 19 brachot, 19 bénédictions. Maintenant, elles ont un certain ordre, et cet ordre a été institué pas pour rien, et des raisons. La Gemara va là-bas nous motiver, nous raconter les raisons pour lesquelles on a en première position Magen Avot, après Mechayam Etim, troisième Akel HaKadosh, etc. On arrive à la septième, c'est Baruch HaShem, Goel Israël. Béni soit l'Éternel, rédempteur d'Israël. Goel, la Géoula, la rédemption. Pourquoi elle est en septième position? Dit la Gemara, parce qu'en septième année aura lieu la Géoula. Il y a un cycle de 7 ans, depuis que le peuple d'Israël est entré en terre d'Israël il y a 3200 ans, il y a un cycle de 7 ans. Toutes les 7e année, c'est l'année de Shemitah, l'année de Jachère, on n'a pas le droit de travailler la terre. Nous dit la Gemara, la Géoula aura lieu une 7e année. Nous sommes en 7e année, encore 3 semaines et demie. La Gemara rétorque, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible, on a un autre enseignement qui nous dit, la 6e année, il y aura des bruits. Des bruits comme quoi ma chair doit venir. On en parle. Septième année, il y aura la guerre. Et qu'en sortant de septième année, donc en 8e année déjà, Mashiach y vient. Donc on aurait dû normalement mettre la bracha de Goël Israël en 8e position pour la Géoula, pas en 7e, probablement en 7e la Géoula. Répond la Gemara, hein, la guerre c'est le début de la Géoula. Donc si je ne me suis pas trompé, messieurs, avant Rosh Hashanah, une guerre doit éclater. Alors, on n'a pas encore beaucoup de temps à attendre, 3 semaines, c'est pas énorme. Et si je me suis trompé, ben je me suis trompé, c'est tout, voilà, on est en pleine spéculation. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Et dans ce cas-là, il faut se déchirer de tchoua. Alors, il y a l'histoire du rêve, là. Un vieux, vieux Tamin Chacham, le Rav Zon, a rêvé de Hafetz Chaim deux fois, qui lui a dit, bien, la Géoula est imminente, va annoncer au peuple d'Israël que la Géoula se prépare. C'est vrai. Il y a un autre rabbin, j'ai un rabbin ici à la Yeshiva, dont je ne citerai pas le nom, qui est allé voir un grand rabbin dont j'ignore l'identité, je pense avoir deviné, qui m'a dit, qui était voir ce grand rabbin. Il n'a pas voulu me dire qui. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Parce que le rabbin lui-même lui a dit, ne dis à personne ce que je t'ai dit. Enfin, ne répète pas ce que je t'ai dit. En tout cas, pas en mon nom. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ce grand rabbin au rabbin de la Yeshiva? Le rabbin de la Yeshiva est allé le voir pour lui poser trois questions sur le travail de sa femme l'année prochaine, sur les enfants, enfin, des questions personnelles. Le rabbin lui a dit, ça ne sert à rien que je te réponde, tout est terminé. Il peut se tromper. Je vous dis que le rabbin s'est trompé en 90. Mais, ok, ça commence à corroborer tous les côtés. Alors, peut-être que toutes les corroborations sont fausses. Peut-être! Je sais que des, on va, voilà, on ne sait pas où on en est. Maintenant, je vous mets que je suis un peu lancé, là, je vous chauffe encore un peu plus. J'étais il y a 4-5 mois. Un cheval brachot. Et je parle, je fais une petite dracha, je me rassieds. Le type assis à côté de moi, un jeune homme de 20 ans, du mouvement Mizrahi, donc sioniste religieux, me dit, comment vous osez dire dans votre dracha qu'on est encore en exil? Je vois quoi, je comprends pas de quoi tu dis, on n'est pas en exil. C'était quelques jours après qu'ils ont massacré les pauvres juifs dans la yeshiva, ici à Jérusalem, Merkaz Arab. Des Arabes viennent. Te tue des terroristes viennent, te tue des élèves dans l'Ishiva, tu dis qu'on est en Géoula, on est en plein exil. C'est vrai qu'il y a une partie du peuple qui est revenu en terre des saints, mais le Machiach n'est pas là, il ne faut pas rêver. On est déjà en Géoula, depuis 1948, depuis que l'État d'Israël a été créé, c'est la Géoula. Ben lui, il y a un drôle de tête à Géoula, des prostituées à Tel Aviv, une crêpe à Jérusalem, j'aurais pas imaginé le Machiach comme ça. Bon, lui me dit, j'ai une preuve, 100% comme quoi la Géoula est venue en 1948. Il me dit, il y a un secret. Le Gaon de Vilna écrit dans son commentaire sur le Sifra de Tzinyuta, c'est un livre de mystique juif, quand viendra la Géoula. Mais il conjure celui qui comprend ce qu'il dit de ne pas le dévoiler. Et c'est vrai qu'on ne comprend rien du tout. Parce que ce jour-là, je n'avais jamais vu ce secret-là, mais je savais que ça existait. Lui me dit, il y a des gens qui ont compris le secret, ils l'ont dévoilé. Ils sont morts, deux personnes, la même année, mais ils ont dévoilé le secret. Et lui, ce petit de 20 ans là, comme ça, il me raconte le secret. Comme ça, à table, un cheval brachot. Alors, pour finir, j'ai vérifié. Je suis allé voir chez quelqu'un qui se connaît, il m'a ouvert exactement l'endroit, j'ai vu, j'ai lu, là-bas, on comprend rien, et c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est certainement que c'est pas ça. Mais le truc qu'il m'a dit, lui, ce que je lui dis, c'est tout, faut voir, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est sympa. Il me dit comme ça, il me dit, il y a le mot Adam. Adam, c'est l'homme, d'accord? On sait que l'homme représente toutes les âmes. Le peuple d'Israël proviennent du premier homme. Et tant qu'il y aura encore des âmes, c'est marqué, la Gemara dit comme ça, tant qu'il y aura des âmes dans le corps, Machiach ne peut pas venir. Parce que toutes les âmes doivent venir sur terre. Donc en fait, l'homme, c'est aussi l'histoire ici. Comme on a vu un peu la statue de Daniel aussi, maintenant le premier homme correspond à toute l'histoire. Alors il me dit, le mot homme, c'est Adam. Adam, c'est constitué de trois lettres. Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem. Il me dit, Aleph correspond à Aleph comme Adam. Dalet correspond à David. Et Mem correspond à Machiach. Et il me dit, il faut prendre la période qu'il y a depuis Adam jusqu'à David. C'est la même période qu'il y aura depuis David jusqu'à Mashiach. Je fais le calcul, je rentre à la maison, je fais le calcul, ça tombe exactement 1948. Je dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, on l'a vu la Géoula. Si c'est la Géoula, on rend notre tablier, hein. C'est pas ça qu'on attendait. Il est où Mashiach? Il est où le temple? Il est où le sacrifice? Et ça m'a fait tilt. Je dis, lui, il a calculé depuis quand? Il a calculé depuis la naissance de Mashiach, depuis la naissance de David. Non, rien à faire de la naissance de David. David est dans son lit, il fait heureux, heureux. C'est pas... Rien à faire, David dans son lit. C'est pas ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Quand il est roi, il devient roi. Non, à quel âge il devient roi? À l'âge de 30 ans. Donc il faut, messieurs, rajouter de Adam à David, 30 ans. Et de David à Mashiach, de nouveau 30 ans. Ça nous fait combien? 60 ans. Et partout ici en Israël, tu vois, 60 ans d'Israël. Alors, ils ont encore quelques semaines. C'est un jeu de mots, peut-être on s'est complètement trompé. Que faire la même chose pour l'année prochaine et l'année d'après. J'en ai des bons aussi comme ça, hein. Faut pas. Mais peut-être que c'est le vrai. Et dans ce cas-là, on est idiot de pas se préparer. Donc faut se préparer. Maintenant c'est Elul, faut se préparer.
Mais en vrai, parce que quand il y a un peu de la pluie de voler à ses fils, quand est-ce que Machiach va venir?
lui, il a perdu le roi à Hakodesh.
Ouais.
Comment c'est que maintenant, nous, on arrive à trouver des codes et des...
Mais je t'ai dit qu'on n'a rien. Ce sont des spéculations.
C'est des bonnes spéculations, quand même.
Ça, on saura après.
Et que tout le monde ait des codes comme ça, des avis.
Moi, je pense... Alors, je vais raconter une histoire que raconte le Malbim. Le Malbim, il dit comme ça, qu'un beau jour, un père a pris son fils, sont partis en diligence pour parler dans une autre ville. Et on sort de la ville, des gens en diligence, papa, le gosse, il dit, papa, on arrive bientôt. Qu'est-ce que tu me poses des questions pareilles? On vient de partir. Bon, il n'a plus rien dit. On arrive maintenant, après quelques jours de route, on arrive près de la ville, et le père dit à son fils, tu vois, mon fils, on arrive bientôt. Mais papa, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas poser la question si ça arrive bientôt ou pas. Quand on est au début de la route, que tu me poses des questions, on arrive bientôt. On a encore 3000 ans à tirer. Là, maintenant, on est à la fin. À la fin, c'est normal qu'on doit essayer de voir. Maintenant, laisse tout ce que j'ai maintenant de côté. Oublie. C'est marqué que le peuple d'Israël sera sauvé par la tchouva. Et la Guéoula ne peut arriver que par la tchouva. Et il y a une assurance. La Torah a promis qu'à la fin de son exil, le peuple d'Israël fera tchouva. Immédiatement, ils seront sauvés. Aujourd'hui, c'est clair. T'as la tchouva dans le monde. C'est clair comme l'eau de roche. Anormal. Vous en êtes vous-même les témoins vivants. De plus, il y a un retour en terre d'Israël. De plus, c'est marqué dans la Gemara, traité Sanhedrin 98, c'est marqué « Tu n'as pas de signe plus clair de la fin que la terre d'Israël donne ses fruits. » Elle donne ses fruits. De plus, c'est un truc profond, mais ça, je vais en parler un peu. Ah. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, Moshe Rabbeinu fait une grosse erreur, très grosse erreur. Il veut sortir avec lui ce qu'on appelle le Er Evrav. C'est marqué El Evrav Alaimo Memitzraim. Littéralement, c'est le grand mélange. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui n'étaient pas juives, qui étaient égyptiennes, mais ils sont convertis sur place et voulaient devenir juifs comme les autres. La mystique juive va dire ce sont des âmes qui ne sont pas totalement juives. Elles sont à mi-chemin entre goy et juif. Et les 400 ans d'esclavage en Égypte étaient là pour les séparer de la pureté du peuple juif, qu'ils soient séparés. Et Moshe Rabbeinu, en les sortant, les fait recoller. Et ils sont extrêmement collés au peuple d'Israël. Et dit le Gaon de Vilna à 300 ans, il y aura une période où on n'aura plus l'esclavage des nations. On aura enlevé l'esclavage des nations de Ishmaël, on aura enlevé notre esclavage des nations dans les nations de Esav, de Edom, mais restera encore l'esclavage du Er Evrav. On sera sous la tutelle du Er Evrav. Le Er Evrav, c'est marqué qu'en sortant d'Égypte, ils étaient très faible, très peu, mais suffisamment puissant pour avoir faire le veau d'or au peuple d'Israël. C'est eux qui ont fait le veau d'or. Quand Moshe Rabbeinu au haut du ciel, au mont Sinaï, Dieu lui dit, « Red kishichet ammecha, asher otset ammecha mitzrayim. » Va, descends, car ton peuple que tu as sorti d'Égypte, il a fait le veau d'or. Ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Pourquoi il dit à Moshe ton peuple? Le peuple que toi t'as sorti. Moi je voulais pas le sortir, c'est toi qui l'as sorti. Et c'est marqué dans les écrits qu'à la fin, comme ça écrit le Gaon de Vilna il y a 300 ans, qu'à la fin des temps, le Er Evrav, Itrabu, Meod, Meod vont se multiplier beaucoup, beaucoup. Multiplier, ça veut dire fois 2, beaucoup, ça veut dire fois 20, beaucoup, fois 200. Énorme! Le seul but du Er Evrav, c'est faire que le peuple d'Israël n'existe pas. C'est leur but. Leur finalité sur Terre. Pardon? Non. Alors, c'était à l'époque, c'était les âmes des convertis égyptiens. Mais un Er Evrav, c'est une âme. Et c'est marqué très clairement que deux juifs tzadikim peuvent avoir une âme de Er Evrav. Peut avoir amené un enfant de Er Evrav. C'est pas quelque chose qui est génétique. Très souvent, en fonction de la pureté de l'union entre l'homme et la femme qui vont générer un enfant, va influer si sur l'âme qu'ils auront. Et si c'est marqué dans Shulchan Aruch qu'il y a 9 sortes de relations qui peuvent amener un enfant de Er Evrav. Par exemple, quelqu'un qui est sous, qui est ensemble avec sa femme, ou qui pense à une autre femme, des choses comme ça, peut amener une âme de Er Evrav. Et c'est marqué, le Gaon de Vilna dit aussi, il se base sur le verset de Yaakov, c'est sa rencontre avec Esav, quand il revient d'exil, c'est le peuple d'Israël qui revient d'exil. Et face aux nations, il mettra en premier rang Bnei Hashfachot, les fils des servantes. C'est le Er Evrav, c'est-à-dire qu'eux, ils seront au premier rang social. Après eux, il y aura tous les communs du peuple d'Israël, c'est les fils de Léa, et tout au bas de l'échelle sociale, l'aura les Tamil, le monde religieux orthodoxe, d'accord, les étudiants de Torah, qui seront tout au bas, qui le regardent, au niveau politique, face au monde occidental. On n'est rien, on pèse pour rien. Et ce sont eux qui vont pratiquer le retour en terre d'Israël. pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer maintenant. J'en parle dans un autre cours qui s'appelle le Erev Rav. J'explique pourquoi est-ce qu'il fallait qu'à la fin des temps, c'est eux qui fassent la pratique de la conquête. Maintenant, le Erev Rav, il ajoute comme si c'est lui le vrai Israël. Ils ont dit au Bnei Israël, au veau d'or, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ils n'ont pas dit, on va maintenant être goy, on veut servir le Moloch, servir une autre idolâtrie. On veut servir Dieu. Mais ils vont donner une autre représentation de Dieu. Ils vont dire, la Torah, c'était bon en galoute. Maintenant, il y a Tzahal, il fallait faire, on va l'agriculture israélienne. C'est ça, la nouvelle religion. Dieu, on ne connaît pas. Et ils ont réussi. Et 98% du peuple juif est tombé dans le panneau. Il fallait qu'il y ait cela. Il fallait qu'il y ait cela. Mais ils ont dit un message mensonger. Aujourd'hui, c'est pour faire que peut-être que j'ose le dire sur Internet, on voit leur figure. Il n'y a qu'à voir la direction de l'État. C'est marqué, il y a 5 sortes d'Erev Rav. Le cinquième est appelé Amalécite. Le Zohar dit, page 25 du Zohar, Bereshit, c'est marqué, ce sont ceux qui sont à la tête, qui ont le pouvoir sur le peuple d'Israël. Le pouvoir. Mais regarde, quelle bande de mafieux. Combien de dossiers de corruption il a ou le meurtre. Et l'autre qui a attrapé en flagrant délit avec des femmes, et le troisième corruption, et le quatrième, tout. C'est tout. On ne peut pas même pas les prendre en juge, parce que toute la bande, elle est corrompue. Donc même les juges, même les flics, tout le monde sait. C'est pas possible. On ne connaît pas un président qui a autant de casseroles qui traînent derrière, qui est encore au pouvoir. Et maintenant, il veut rendre le pays. Ils vont signer. On n'est même pas au courant. Elisha, le représentant de chasse au gouvernement, a dit, je ne suis même pas au courant. Il est dans le gouvernement. Il est, je sais pas, dans les 12 là-bas du gouvernement. Il ne sait même pas de quoi il parle. C'est hyper secret. Ils sont en train de tout rendre. Ça aussi, c'est un signe que le Erev Rav monte sa vraie tête. Que les menteurs montrent, quand le mensonge, il a l'air vrai, il est dangereux. Mais quand on voit sa vraie tête, eh ben on voit de qui il s'agit. Ça, pour nous, c'est très très clair. Tu vois que la direction de l'État, elle est en décomposition. Ça veut dire quelque chose. C'est marqué dans la Gemara aussi. Efes Atsur Vazou, il n'y a personne là qui est pour diriger le peuple. Il n'y a rien. C'est marqué dans la Torah. Parachat Azinu. Et la Gemara dit, on parle de l'époque messianique. Efes Atsur Vazou, aucun qui les retient, qui les dirige. Donc, tout ce que je dis, ça sert à quoi? Parce qu'il ne reste plus que 3 semaines pour le jour du jugement, 3 semaines et demie. Il faut se déchirer en tchouva. Parce que en Israël Nigalin est là avec les tchouva. On ne peut être sauvé que par la tchouva. Chacun sait, on a demandé au Rav Zone, on a interviewé sur ce rêve-là du Rav Israël. Alors, il faut faire tchouva. Alors, comment on fait? Il dit, chacun sait sur quoi il doit faire tchouva. Chacun sait. Mais qu'il fasse tchouva. On ne peut pas être parfait. On peut montrer à Dieu, voilà, je fais mon maximum. J'avance. Et que par son mérite, c'est ça nos grandes prières. Que Dieu fasse que ma chair vienne sans la guerre. Pas besoin de guerre. Dieu peut faire comme ça qu'est ma chair. C'est marqué, je crois que c'est Zacharie. Zacharie, c'est marqué dans la prophétie, qu'il obé korf et l'obé chayl. Pas avec la force, pas avec l'armée. Kim beruchi amar Hashem. Mais avec mon esprit. L'esprit, c'est que des juifs aujourd'hui font tchouva. Et ça, c'est une lumière énorme dans le monde. Et aujourd'hui, le monde aussi, on voit qu'il est en catastrophe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien, plus rien. Plus de famille, plus... Pour ça, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais suffisamment, je pense, ici, pour nous mettre en bonne pression. Encore une fois, je veux répéter, surtout aux internautes qui nous écoutent, ce sont des élucubrations spéculatives, exagérées, certainement fausses. Mais peut-être vraies. Donc, c'est suffisant pour que si ma chair vient vraiment, qu'on ne dise pas pourquoi ce que personne nous a dit. Si ma chair ne vient pas, je me suis trompé. Ok, donc j'ai bien dit, et on se trompe toujours. Mais s'il est venu vraiment, alors c'est dommage de ne pas avoir profité de ces... Encore, je vous dis, je peux maintenant faire tchouva pendant 4 ans. D'accord, 3 semaines. Si la guerre commence une seconde avant Rosh Hashanah, alors ça, la skoula, c'est la fin des haricots. Bahou Adonai, l'homme va...